des polars et des notes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Évasion pour cette émission spéciale de Dépolaire et des notes que nous allons consacrer à la filière du livre et aux difficultés de celles et ceux qui y travaillent. En premier lieu, les travailleurs et travailleuses indépendantes qui ont des difficultés exacerbées par la crise sanitaire que nous traversons, mais qui ces difficultés étaient déjà présentes bien avant que surgisse la pandémie, avant ce confinement qui a fermé les librairies, tué dans l'œuf la vie des livres sortis juste avant la fermeture générale et reporté au calendrier grec les publications programmées en mars et avril. L'édition indépendante tente de s'organiser et a lancé dernièrement un appel via une tribune publiée dans le journal L'Humanité du 29 avril, puis reprise par différents médias, dont 404 le 5 mai, afin de fédérer les énergies et d'enfin obtenir une place aux tables de négociation où jusque-là personne ne porte leur voix. Nous allons suivre donc dans cette émission le parcours d'un manuscrit et découvrir quelques-uns des métiers qui l'accompagnent. Au commencement étaient les auteurs et les autrices, bien évidemment, mais ils sont présents dans chacune des émissions. Alors nous avons choisi de mettre en avant des professions moins médiatiques, mais tout aussi essentielles, en suivant le circuit logique de la filière. Et nous commençons tout de suite par la traduction, sans qui nous ne pourrions découvrir tous ces romans écrits dans des langues que nous ne parlons pas. Et c'est Amandine Py qui est avec nous pour en parler. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, tu étais professeur d'espagnol. Et comment es-tu venu à la traduction ?
Moi, je pense que j'ai commencé par la traduction, le professeur. Ah, c'est quelque chose que je me suis mis de côté, très très jeune, sur les conseils de mes professeurs de l'époque, et que j'ai ressorti du placard, justement, à la faveur de chaque crise. Ces crises comme celle du Covid-19 qui mettent en relief la fragilité de certains métiers, la fragilité du métier de traducteur. Alors c'est vrai que c'est pas médiatisé le traducteur parce que il doit être mince comme une feuille de papier, dit Éric Bourri, il doit être transparent et d'autres traducteurs peuvent le considérer comme celui qui doit s'effacer face au couple que fait l'auteur étranger et le lecteur français qui doit rentrer dans le monde de l'auteur sans intermédiaire.
Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de travail, parce que je sais que tu traduis aussi bien des essais scientifiques que de la politique. Par exemple, tu es la traductrice de Pablo Iglesias, mm-hmm. qui n'est pas le frère de Julio, mais le président de Podemos, des romans noirs pour Actes Sud. Il y a tout un univers, et aussi de la poésie contemporaine. C'est vraiment des univers très, très différents.
Oui, il y a beaucoup de monde qui... Bon, il y a plusieurs positions dans le métier, mais on ne traduit pas une langue, finalement. Évidemment qu'on a un bagage linguistique qui nous permet d'accéder à la littérature ou la politique ou les essais composés dans une langue donnée. Mais on traduit avant tout l'univers d'une personne, un univers personnel, un univers culturel aussi qui peut s'étendre à une région ou qui peut s'étendre à un pays ou un continent selon l'envergure du projet porté par l'auteur. Moi, j'ai traduit, en ce moment, je me spécialise presque dans les mini-univers, c'est-à-dire qu'on me donne des textes à traduire qui sont marqués de localisme, qui sont marqués d'une tentative d'écrire au plus près d'une réalité donnée. On s'embarque dans un projet de traduction, jamais avec des principes généraux, si vous voulez. On ne peut pas traduire Pablo Iglesias, qui fait un manifeste de toute la pensée de gauche, qui essaye de le condenser avec ses principes de professeur universitaire, ses arcanes, qui essaye de délivrer un savoir au plus grand nombre. Ça, c'est quelque chose qui traduirait la pensée occidentale de gauche, si, finalement, qu'on peut traduire idée par idée. On ne l'abordera vraiment pas pareil qu'un auteur canarien qui écrit avec la langue de son port, de son quartier, et qui, lui, recherche une espèce de vérité naturaliste du quartier.
Mais il y a une grande différence entre un essai scientifique où les termes sont très, très précis, scientifiques, donc, mmh. et des poésies où là, ça fait plus appel à des émotions qui sont très, très fins à traduire.
Ben, ce qu'il y a de commun dans les deux, c'est qu'il y a des strates, finalement, des strates de lecture. Quand on lit un essai scientifique, on est obligé de lire en filigrane tout ce que l'auteur, le scientifique en question, a a lu, a su, a digéré et a voulu transmettre son grain de sable à lui dans l'édifice scientifique qui a été à sa connaissance. Ce qui est extraordinaire quand on traduit, c'est qu'on voit que quelqu'un qui baigne dans un courant européen ne pense pas les choses de la même façon que quelqu'un qui baigne dans l'univers nord-américain, par exemple. Il y a peu de temps, je traduisais justement Piedad Bonnet, une Colombienne, qui, elle, est très ouverte à la pensée occidentale et fortement imprégnée des États-Unis, comme tous les Colombiens qui ont beaucoup d'instruction, beaucoup d'éducation. Mais donc, quand elle aborde la psychologie, elle est pleine de concepts fabriqués aux États-Unis. Et j'ai vu en traduisant cet auteur que finalement, nous, les Européens, on était démunis. On n'avait pas cette culture. Nous, les psychologues français, ou quand on parle de psychologie, quand on aborde les caractères des personnes, on le fait avec tout le bain, on va dire, psychanalytique que les structuralistes des années 70 ont apporté à notre bouillon culturel. Donc voilà, il s'agit de resituer toujours le bouillon culturel dans lequel cet auteur écrit, et que ce soit de la poésie ou de la science, ça revient au même, puisqu'il faut retrouver toutes les chaînes, en fait.
S'imprégner de ce qui fait la vie.
Voilà. Alors, pour un scientifique, ce sera des chaînes d'idées qui ont été invalidées par d'autres scientifiques, qui ont été approfondies par d'autres. Et dans un poème, ce sera des chaînes plus métaphoriques, mais qui seront plus des références à d'autres textes, à d'autres métaphores inventées par d'autres poètes que le poète aura lu. Donc le traducteur au milieu, il va à la pêche, il reprend le fil, il remonte le labyrinthe. Parce que je pense personnellement que plus on a intégré de strates de lecture dans la compréhension du texte, mieux on peut en restituer ce qui est écrit et aussi ce qui est entre les lignes finalement.
Et comment ça se passe donc pour un manuscrit? Est-ce que c'est un éditeur qui te demande de le traduire? Est-ce que c'est un auteur qui te demande de le traduire? Est-ce que c'est toi qui choisis un roman en espagnol ou un texte en espagnol et qui te dit « tiens, ça, je le traduirais bien »
Plus rarement. Je pense que les traducteurs, notamment ceux qui sont bien installés, ils ont un rôle de conseil. C'est vrai qu'ils sont là, ils lisent beaucoup en langue étrangère, donc ils peuvent, avec les relations de confiance qui s'instaurent avec les éditeurs, dire tel auteur est intéressant peut-être. Mais la décision revient toujours à l'éditeur. C'est l'éditeur qui va porter le projet éditorial de A à Z jusqu'à la vente. Et c'est lui qui va demander au traducteur de travailler sur tel ou tel texte. Après, par habitude, les auteurs ont un peu leur traducteur, un peu comme les doubleurs, les doublages au cinéma. On est habitué peut-être à un couple, finalement, un couple entre une voix française qui écrit un auteur américain ou un auteur chinois. Voilà. Donc souvent, on respecte ça.
Et comment ça se passe pour la rémunération d'un traducteur? Est-ce que c'est ou d'une traductrice? Est-ce que c'est comme l'auteur à la vente d'un livre? Est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, la ligne?
Alors, c'est un peu particulier. C'est une rémunération au feuillet. Un feuillet, c'est 1500 signes maintenant. Avant, c'était... avant, c'était je ne sais plus combien de lignes exactement, mais ça donnait à peu près un petit peu moins que 1500 signes. Avec l'automatisation et les fichiers Word, maintenant, on compte 1500 signes, on rajoute un petit pourcentage pour rétablir l'ancien feuillet traditionnel. Donc, il y a un tarif au feuillet qui se négocie totalement individuellement. Il y a des normes, en fait. Il y a un petit peu des normes. On ne peut pas payer moins de 15 euros un feuillet. On peut pas difficilement le payer plus de 50. Mais au milieu de ces fourchettes extrêmement larges, qui sont assez communes aux langues, aux aires régionales traduites, il y a toute la fragilité du métier de traducteur, puisque tout ça se négocie au cas par cas, contrat par contrat, entre une entreprise installée, avec donc un pouvoir de décision très fort, et une personne, forcément, dans une relation très asymétrique, qui peut défendre son bout de gras plus ou moins correctement.
Mais moi, en discutant avec des traductrices et des traducteurs d'anglais principalement, y en a beaucoup qui se plaignent d'un raccourcissement des délais. Mm-hmm. Tu le ressens, toi ?
Alors, mais je m'aperçois que je n'ai pas répondu vraiment à ta question la première, c'est-à-dire que le tarif est au feuillet en fonction du nombre de signes de l'œuvre qu'on traduit.
Ouais.
Mais tout ceci, c'est des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils nous versent une avance sur les droits d'auteur qu'ils vont toucher ensuite à la vente du livre.
Et pour avoir une idée, les auteurs touchent des avances.
Les auteurs, ils ont 10% environ, un peu plus, un peu moins. Alors que les traducteurs, ils touchent environ 1%, 2% de chaque livre vendu. Voilà, pour d'autres idées. D'accord. Après, pour le raccourcissement des délais, oui, c'est des délais qui sont très exigeants. C'est un peu
compliqué. Mais sur plusieurs années, si tu veux, ils s'apercevaient, c'est des traducteurs qui bossaient depuis longtemps, ils s'apercevaient qu'on leur demandait de raccourcir les délais qu'ils avaient auparavant.
Mais je pense que ça, c'est une dynamique qui est à l'œuvre dans le monde du travail de façon générale. C'est-à-dire que tous les... par exemple, les apports technologiques ont permis une accélération, une simultanéité, quelque chose qui n'existait pas avant, du temps où les très anciens traducteurs tapaient encore leurs traductions ou les faisaient taper par quelqu'un après les avoir écrites à la main. Par exemple, le traitement de texte a accru d'une certaine façon le travail des auteurs puisqu'on demande très implicitement ou très explicitement que le texte soit déjà mis en page, mis en forme, bien tapé, bien disposé, etc. Donc on a transféré un peu de la compétence qui était autrefois celle des éditeurs aux auteurs et aux traducteurs qui font un certain nombre de mises en page en plus de mettre au point le texte. Et donc, tout ça c'est fait dans les mêmes délais. Donc c'est là l'accélération. C'est pas qu'on raccourcit les délais, c'est qu'on demande plus de travail dans le même tempo, on va dire.
Oui, c'est une accélération des cadences.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ce qu'on connaît. Et donc, venons-en à cette fameuse crise du Covid. Là, quel est l'impact au niveau des traductrices ? Est-ce que tu l'as ressenti ? Est-ce que ça a changé quelque chose ?
Alors moi, je dirais que le Covid, évidemment, la crise est très singulière du point de vue de son apparition rapide et de sa brutalité. Donc on ne peut pas mesurer encore les conséquences, mais elle apporte un éclairage immédiat sur la fragilité de la condition de traducteur, finalement.
Parce que vous ne faites pas, bien évidemment, partie des intermittents.
Ah non, non, c'est un métier qui est sans filet, absolument sans filet. D'ailleurs, c'est assez contradictoire parce que pour tenir les cadences dont on parlait tout à l'heure, les cadences, c'est-à-dire, je ne sais pas, traduire un roman de 400, 500 pages en 3, 4 mois, 5 mois maximum, il faut pouvoir le faire à plein temps, il faut pouvoir le faire de façon professionnelle, je veux dire, un amateur ne peut pas faire ça. Mais en même temps, la précarité inhérente à ce métier de traducteur, il est si peu rémunéré que rares sont les traducteurs à ne pouvoir vivre que de la traduction. Moi, je m'y suis essayée et ça a plus ou moins réussi pendant 7-8 ans. Et là, j'ai repris, par exemple, un autre métier l'année dernière, en septembre, là, qui m'a sauvée de la crise du Covid. Donc, pour la question que vous posiez, moi, je ne suis pas impactée directement parce que j'ai pris le parachute.
D'accord.
Mais je ne peux plus, à ce moment-là...
Mais il n'existe pas de parachute institutionnel.
Non, il n'existe pas par des aides, des considérées sous le... Voilà, sous le domaine de la prestation sociale, de l'aide à la pauvreté en général. Mais il n'y a pas... C'est un métier qui est peu formalisé, qui est peu professionnalisé historiquement. Et c'est en train de changer. Il y a une génération de traducteurs relativement jeunes qui ont envie de faire ça professionnellement, qui défendent une espèce de mise au point d'un statut plus protecteur. Ça va de pair avec les mobilisations des auteurs, ça s'inscrit dans la mobilisation des auteurs en général, parce que les gens qui travaillent par l'écrit, qui travaillent par cette pensée, c'est un des statuts les plus précaires qui existent avec plasticien, je pense.
Oui, et puis ça s'inscrit aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de traducteurs et traductrices qui avaient signé l'appel Crisis des éditeurs indépendants, parce que ça permettrait d'avoir une forme d'organisation presque syndicale qui permettrait d'avoir une présence à la table des négociations, parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas là.
Mais vous dites des gros mots. Syndicat, on ne peut pas dire syndicat. Le traducteur ou l'auteur, il est une des conditions de son exercice, c'est qu'il doit être détaché de toute passion matérielle, il doit travailler par passion, il doit se payer de reconnaissance, comme beaucoup d'autres artistes. Ce sont des mots interdits, ce sont des mots sales, ce sont des mots qu'on ne doit pas prononcer.
Ah, c'est pour ça que le ministère de la Culture relaie des sites qui distribuent des livres gratuitement.
Voilà. Alors, face à ça, il y a effectivement un discours qui s'articule, qui est beaucoup plus professionnel et qui n'a pas honte de dire, de parler rémunération, de parler matérialité. Et je pense qu'il s'inscrit justement à l'envers de cette espèce de tendance à penser que l'artiste, dans sa tour d'ivoire, compose, écrit, traduit, comme s'il était encore soutenu par un mécène, ou si c'était un travail d'appoint, ou si c'était un hobby un peu développé d'une femme qui n'a pas d'autre chose à faire dans la vie. Enfin, c'est le métier de traducteur ou d'auteur, souvent, c'est considéré même pas comme un métier.
C'est vrai, c'est une passion, et le problème des gens passionnés, c'est qu'ils mangent aussi et qu'ils doivent se loger et s'habiller, et ça, voilà, on n'en sort pas, quoi.
Mais dans la traduction littéraire, je trouve qu'il y a une sous-estimation de la dimension linguistique, le bagage linguistique qu'il faut posséder pour pouvoir comprendre en profondeur un texte chinois, roumain ou espagnol ou même anglais. Hein. Pas tout le monde peut le faire, donc il y a une espèce de sous-estimation de la dimension linguistique de ce métier, une surestimation de l'aspect littéraire. Et si je dis ça, c'est pas parce qu'il ne compte pas, hein, c'est pour moi primordial. Mais cette inversion, elle permet de conserver ce métier non organisé d'une certaine façon. Elle permet de le laisser échapper aux lois de l'économie générale et de s'épargner tout un débat sur la rémunération de ceux qui vivent de ça.
Oui, c'est un petit peu ça, quoi. Quand on veut pas payer les gens, on trouve toujours le moyen de les amoindrir ou de les glorifier en disant ils font ça par vocation, c'est super, allez les applaudir tous les soirs à 20h, les traducteurs, c'est génial ce qu'ils font.
Oui, voilà. C'est exactement ça. Et on peut le voir très bien dans la traduction parce qu'on a justement tout un pan des traducteurs qui sont traducteurs techniques et qui, eux, gagnent peut-être 2 ou 3 fois le salaire annuel des traducteurs littéraires. En ayant d'autres outils, des outils beaucoup plus automatisés, en n'ayant pas peur de discuter d'un langage freelance, d'un langage économique, d'utiliser des gros mots, etc. Et donc, eux, c'est étonnant la différence qu'il y a entre les deux secteurs. Et c'est vrai que les gens qui font de la traduction littéraire le font par passion. Ça, par contre, l'économie ne abîmera jamais ça. Je veux dire qu'on soit mieux rémunéré ou mal rémunéré, ils le feront toujours par passion.
Il faut quand même qu'ils arrivent à survivre.
Mais le problème, c'est que, voilà, il est très difficile d'en survivre. J'avais discuté avec une grande traductrice, José Camoun, aux rencontres d'Arles, les assises de la traduction littéraire. Quand je lui ai dit que je faisais que de la traduction, elle a levé les yeux au ciel. Elle m'a dit, ma fille, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ta rémunération principale. Et j'étais stupéfiée, en fait. Et ça fait partie des réflexions qui m'ont fait peut-être prendre d'autres décisions, c'est-à-dire la décision de moins vivre en équilibre sur la falaise que j'essayais de tenir depuis 8 ans, vivre que de ça en disant je suis professionnelle, je traduis 15-20 bouquins, je le fais ça bien et je dois vivre de ça. C'est un combat que je continue à porter, mais personnellement, il y a trop de dépendance, il y a trop de précarité, et je pense que le Covid va mettre en lumière ça de façon brutale.
C'est fait déjà, là. Voilà. Bien, merci Amandine. Alors là, on a appris plein de choses sur le métier de traducteur, et aussi, même que les traducteurs, ils ont besoin d'être payés, dis donc. Une dernière chose, mais très très vite, un livre à recommander.
Un livre
pour bien finir le confinement ou bien débuter le déconfinement. Le dernier que tu as traduit, par exemple.
Le dernier que j'ai traduit, là, il est sorti juste avant le confinement. Il s'appelle La mauvaise herbe. C'est publié chez Actes Noirs. C'est un thriller de Agustín Martínez qui est un vrai jeu de piste, un labyrinthe où c'est très, très, très difficile de savoir la fin à l'avance. Voilà.
C'est comme la crise du Covid. Voilà. C'est super.
Voilà.
Merci beaucoup, Amandine.
Et ben merci. Au revoir.
Te vi, yo pensaba en otras cosas, fuiste.
Notre texte accepté par la maison d'édition, il convient d'y apporter des corrections, et il y en a toujours, hein, travail du correcteur ou de la correctrice. Et c'est Anne Bouclier, qui est correctrice indépendante, qui nous dévoile tous les secrets de cette profession très peu connue. Bonjour Anne.
Bonjour Patrick.
Alors, suscitons des vocations. Tiens, quel est le chemin que tu as suivi pour devenir correctrice?
Alors, en fait, aucun.
D'accord, ça va aider.
Ouais, non, mais j'ai eu ce qu'on appelle de la chance. Et je travaillais à l'époque, je faisais du numérique. Et je travaillais dans un atelier. Et dans cet atelier, il y avait une fille qui travaillait pour des grands éditeurs et qui faisait de la correction. Et qui un jour était un peu débordée et qui m'a demandé un coup de main, de lui donner un coup de main. Voilà. Et j'ai commencé comme ça, en fait.
Alors, en quoi consiste exactement ce travail? Parce que c'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas limité à dénicher des fautes d'orthographe dans un texte.
Non, parce que les fautes d'orthographe banales, disons, les coquilles, les choses comme ça, y a des logiciels qui font ça plutôt bien. Et l'intérêt, c'est de savoir si la correction proposée par le logiciel est vraiment pertinente, c'est sûr. Mais après, on a ce qu'on appelle les fautes d'orthographe grammaticales, c'est-à-dire les accords. Et ça, c'est plus délicat. Et puis, il y a aussi la syntaxe, les virgules mal placées, les recherches, les vérifications de date, de nom propre, de fait.
De cohérence.
Ouais. Et aussi ça, ouais. La cohérence même du texte. Comment ça, il a dit ça à la page 39, et là, il dit exactement le contraire.
Par exemple. Ouais, ou il s'appelle pas pareil suivant le chapitre.
Ça, ça aussi, ça arrive, ouais. Ça arrive. Mais bon, ça c'est un peu, bon, un peu moins courant, disons. Mais ça arrive, ouais. Donc, on vérifie beaucoup de choses. On vérifie la structure du bouquin aussi, plus ou moins. Après, ça dépend des éditeurs. Ça dépend comment on travaille avec l'éditeur, ça dépend dans quelles conditions, ça dépend des consignes qu'on a. Ça peut varier selon les livres, selon les auteurs, quoi, je veux dire, et selon les éditeurs.
Et ce sont les maisons d'édition qui te contactent, qui te disent bah voilà, on a des manuscrits, on ouais. voudrait que tu nous les corriges.
Oui, en gros, c'est ça. C'est, moi, j'ai jamais, en réalité, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, j'ai jamais cherché de travail. Donc, ouais. c'est pour ça que je dis, enfin, mon parcours est pas très. Est pas exemplaire, je veux dire, enfin, révélateur. Où il est à part, quoi, parce que voilà, j'ai toujours eu de la chance. Et bon, là, ça diminue un peu, ma chance, mais bon.
Et donc, il y a beaucoup de contacts avec l'auteur. Si tu fais des propositions sur son texte, si tu le modifies, si tu changes des... Tu trouves des incohérences dans le manuscrit, etc. Il y a beaucoup de travail avec l'auteur, quand même. C'est un travail d'équipe.
Bah, curieusement, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, hein, ça dépend des maisons et ça dépend des éditeurs, parce que bon, il y a dans chaque maison, enfin moi j'ai travaillé avec des maisons d'édition où il y avait plusieurs éditeurs, et selon avec qui tu travailles et selon le bouquin aussi et selon l'auteur, t'es plus ou moins en contact avec eux. Il y a des fois je vois même pas l'éditrice, enfin ni je parle avec l'éditrice, ça pourrait être XY, ça serait la même chose. Parfois, oui, je suis en contact. Parfois, elle me donne des consignes. Parfois, elle répond à mes commentaires parce que je travaille en suivi de correction sur Word. Et parfois, elle répond à mes commentaires. Et effectivement, on échange nos impressions et on affine un peu la correction. Parfois, ça m'est arrivé, oui, à la belle époque, de travailler directement avec les auteurs. Ouais, mais les Pardon ?
Tu préfères ?
Souvent, on gagne du temps, en fait.
Ouais.
Voilà. Parce qu'après, c'est un peu le principe du téléphone arabe aussi, c'est-à-dire que on passe, quelqu'un dit quelque chose qui est transformé ou pas, et quand ça arrive à l'auteur, l'intention n'est plus la même, quoi. Ouais. Donc, effectivement, on gagne du temps, oui.
Et donc, on en parlait avec la traductrice. Au niveau rémunération, c'est au forfait. Tu es payé pour un livre ou par au nombre de signes
Au nombre de signes. Alors, il y a, en théorie, il y a un nombre de signes et un nombre de signes qu'on est censé faire dans l'heure.
Voilà. Théorisme.
Voilà. Et... c'est pareil, ça dépend aussi des maisons d'édition. Moi, j'ai travaillé pour des maisons d'édition où le manuscrit, enfin les corrections, étaient bien évaluées par l'éditeur. C'est-à-dire que quand il me disait, voilà, il y a à peu près 40 heures de boulot, il y avait 40 heures de boulot, à peu près. Bon. Et si je disais, ouais, mais bon, il y en a 45, eh ben, j'étais payé 45 heures.
D'accord.
Voilà, mais ça, c'était toujours, c'était la belle époque.
Ça, c'était avant.
C'était avant, ouais. Et parce que même ces maisons-là, je veux dire, les éditeurs sont parfois frustrés, hein, je veux dire, mais c'est pas forcément leur faute. Mais c'est un peu comme à l'hôpital. Il y a des maisons d'édition avec des gens qui disent « Ah non, non, mais là, c'est trop cher. »
Faut réorganiser.
Ouais, pour travailler. Enfin, ils sont là pour dire non. Voilà, ça c'est... Non, pas plus de 40 heures, quoi.
Et est-ce que tu crois que ça influe ? Parce que moi, en tant que lecteur, je m'aperçois que sur des romans qui sont publiés, et par des grandes maisons, il y a de plus en plus de fautes. Et non seulement des coquilles, des fautes d'orthographe, et des incohérences graves. Et est-ce que tu crois que c'est lié justement à cette compression des coûts ?
C'est clair. C'est clair, je veux dire, les correcteurs, ils essaient de faire leur boulot le mieux possible. On peut pas travailler. Il y a un moment, c'est pas humain. Voilà. Donc, il y a un moment, on dit, bon, ben, moi, j'ai pas le temps. En plus, vu ce que je suis payée, j'ai pris 2 livres, parce qu'il faut que je mange. Donc, au lieu de dire, oui, mais vous comprenez, ça serait peut-être mieux si, et est-ce que vous voulez dire ça ou ça ? Eh ben, on met un commentaire un peu lapidaire, syntaxe, sens, incohérent. Et s'il n'y a que personne ne le voit, enfin, ou tout le monde s'en fiche, enfin, j'en sais rien, ou on n'a pas le temps, ou eh ben, ça reste comme ça dans le texte. Ouais, et comme on ne peut pas prendre le temps d'expliquer, l'auteur, parfois, ne voit toujours pas, parce que lui, il sait ce qu'il voulait dire. Donc, il ne comprend pas que c'est pas compréhensible pour les autres, quoi. C'est humain tout ça, hein. Mais le problème,
c'est le fameux truc que moi je me comprends.
C'est un peu ça, mais je veux dire, je veux pas leur jeter la pierre parce que moi je suis la première quand je parle, je sais ce que je veux dire. Il y a des gens qui me regardent avec des yeux de mérou en me disant mais je comprends pas. Donc il faut que j'explique. Mais dans ma tête, c'était clair. Donc c'est pas, c'est juste l'idée d'avoir quelqu'un en face. C'est pas, on n'est pas meilleur, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus bête, on n'est pas. Non, c'est juste un retour, quoi.
Donc survient la crise du Covid, fameuse du Covid-19. Et est-ce que tu en ressens les effets, toi, en tant que correctrice?
Alors oui, dans un sens oui, parce qu'effectivement j'ai moins travaillé au mois d'avril. J'ai pas travaillé du tout, mais c'est difficile d'évaluer, je veux dire, parce qu'on sait pas, on sait très bien, si, il y a des choses qu'on sait, c'est-à-dire que tout d'un coup on n'a plus de nouvelles. Moi j'ai un client, j'ai envoyé des mails, il y a un coordinateur des corrections, j'ai envoyé des mails aux coordinatrices, ne serait-ce que pour avoir de leurs nouvelles, hein, je veux dire. J'ai eu aucune réponse. Il n'y a eu aucune publication, aucune communication, alors que tout le monde est tout à fait capable d'envoyer un mail pour demander si on a l'intention de prendre les congés ou d'appeler le matin à 8h en disant « Ah, t'as le bouquin qui arrive ». Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Hein, quand on a besoin de vous, on vous appelle. Après, là, ma foi, c'était complètement muet. Pas de nouvelles de personne. Je pense que c'est effectivement c'est un peu difficile. Ça se trouve, ils sont juste fâchés avec moi. Hein.
Mais tu n'as pas, bien évidemment, droit au chômage partiel ou à des aides ou...
Voilà. Alors, pour être juste, on a eu effectivement les aides aux auto-entrepreneurs. Donc, pour le mois d'avril, je l'ai demandé. Je ne sais pas comment ça va se passer, par exemple, pour le mois de mai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur, il est décalé par rapport au moment où tu as travaillé. D'accord. Parce que bon, tu fais tes bouquins, tu fais ton boulot, si tu enchaînes 3 ou 4 livres, tu attends la fin pour faire les factures. Le temps qu'on te paye, y en a qui te payent à 2 mois. Hein.
Oui.
Donc le chiffre d'affaires n'est pas révélateur.
Oui, donc
non plus. La date de facturation n'est pas forcément révélatrice non plus. Donc, par exemple, au mois de mars, j'ai moins travaillé que l'année dernière. Enfin, mon chiffre d'affaires est plus bas que celui de l'année dernière, mais c'est pas révélateur.
D'accord, c'est pas une image de tes revenus et donc forcément t'es perdante.
Mais c'est pas ça correspond pas à ce que j'ai vraiment travaillé au mois de mars l'année dernière par rapport à cette année, quoi.
Et donc, est-ce que ça t'inquiète pas? Parce que tu me parlais déjà de compression des coûts avant. Donc là, l'édition en prend un sérieux de coûts.
C'est clair.
Avec cette crise. Est-ce que tu n'es pas un petit peu inquiète justement sur des postes comme ça qu'on traite un petit peu moins bien qu'avant? Est-ce que tu ne crois pas que ce sera encore un petit peu pire après?
Inquiète, c'est rien de le dire.
J'ai une litote.
Oui. Voilà. Et comme je disais, je ne suis pas représentative. Voilà. J'ai un réseau, il y a des gens. J'aime bien travailler pour des petits éditeurs qui ont envie de faire du travail sérieux et qui payent encore plus mal. Alors là, pour le coup, je suis même plus payée au mille de signes. C'est juste, c'est quoi que vous avez comme budget pour ce bouquin? Je prends ça. Voilà, parce que j'aime travailler pour eux. Mais c'est sûr que c'est pas eux qui me font manger. Mais voilà. Après, je suis dans un cas de figure un peu particulier. J'ai choisi ça. C'est ma liberté à moi. Mais je pense vraiment aux correcteurs qui font que ça. Moi, je fais un peu de numérique aussi de temps en temps. C'est difficile. Et vraiment, j'extrapole et je pense aux correcteurs qui font que ça, qui ont pas vraiment, qui sont peut-être à peine au SMIC, quoi. Ouais, et là, ça va être très très dur, très dur.
Triste état des lieux.
Oui, c'est vraiment. Enfin, Et il y a longtemps que je le vois venir, en réalité. Hein. J'ai vu la dégradation.
Oui, ça préexistait. Ouais. Ça préexistait ouais. à la crise du Covid.
Oui, le Covid, c'est comment dire, c'est comme une espèce de loupe qu'on mettait sur toutes les défaillances du système dans lequel on vit, du système économique dans lequel on vit. Mais c'est quelque chose qui se profilait depuis très longtemps. J'ai vu la dégradation. J'ai vu un éditeur en particulier, bon, que je ne vais pas nommer là, mais j'ai vu comment ça s'est passé, quoi. Et j'ai vu les éditrices, enfin un éditeur, une entreprise. Et j'ai vu les éditrices devenir complètement blêmes, quoi. Tellement elles avaient l'impression qu'on les empêchait de bosser, presque.
Eh ben, voilà. Merci donc, Anne de nous avoir remonté le moral et de nous avoir expliqué toutes les arcanes du métier de correctrice. Est-ce que tu aurais un roman à recommander pour bien se déconfiner ?
Bah, j'en ai plein en réalité, c'est toujours difficile de choisir. Voilà. Mais comme je savais qu'il fallait... Voilà, j'avais entendu l'émission d'avant, donc j'ai dit bon, un. Et du coup, je pense à un bouquin de chez Piranha, qui est sorti au mois de janvier et qui s'appelle L'invention d'Adélaïde Fouchon, et c'est une petite merveille, voilà,
de Natacha Diem,
voilà, c'est un premier roman qui
une autrice
est
belge,
ouais, qui vit à Paris quand même, hein, depuis très longtemps.
Et donc, réfugiée, donc.
Et ben, le sujet, justement, c'est raconter, ce sont des souvenirs d'enfance confrontés à la vie et aux réflexions de cette même enfant devenue adulte. Donc, une espèce de comparaison entre deux. Voilà la vie et la famille que j'avais quand j'étais gamine. Voilà la vie et la famille que j'ai construite. Et est-ce que vraiment je suis satisfaite de ça ?
Et la réponse est dans.
À la fin.
À la fin. Ok.
Est à la fin.
Merci beaucoup, Anne.
Merci à toi, Patrick.
À bientôt.
À bientôt.
Le roman est passé chez l'imprimeur ou est en train de l'être, mis au bon format pour devenir un livre numérique. Deux autres professions de la filière, il y en a bien d'autres, comme les graphistes, les photographes, relecteurs, etc. Et ce livre est prêt à partir en librairie. Reste une intervenante ou un intervenant très important, c'est l'attaché de presse dont le rôle est de lui donner de la visibilité. C'est Aurélie Serfati-Berkoff qui va s'en charger. Bonjour Aurélie.
Bonjour Patrick.
Alors question rituelle, c'est comment devient-on attaché de presse ?
Alors, vous donner mon exemple serait peut-être un petit peu... Enfin, je peux vous parler de moi, mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de manière de devenir attaché de presse. En tout cas, dans le milieu littéraire, la plupart des attachés de presse que je connais ont fait beaucoup de choses avant. Moi, je n'étais pas du tout amenée à faire ce métier. Je l'ai fait un peu par hasard. J'étais dans le théâtre avant et c'est à la suite d'un stage que j'ai fait dans une maison d'édition qui s'appelle Alia que je suis devenue attachée de presse. Tout à fait par hasard.
Il n'y a pas un CAP attachée de presse, une formation ?
Pas que je sache, en tout cas pas dans le milieu littéraire. Je pense qu'il existe des formations dans le milieu de l'événementiel, oui. Mais pour devenir spécifiquement attaché de presse dans le milieu littéraire, je crois que le meilleur moyen de devenir attaché de presse, c'est d'aimer les livres, la littérature, d'aimer les textes. Et souvent, c'est vrai, on passe par des formations littéraires, en tout cas, soit des formations en philosophie, en littérature, que sais-je. Mais en tout cas, je crois que le point principal pour être attaché de presse aujourd'hui, c'est apprécier la littérature, les livres, être capable de lire, être capable de donner son ressenti. Mais dire qu'il y a une formation spécifique pour ça, non, pas que je sache.
Et donc, ton travail, ça consiste à contacter les journalistes, les blogueurs, les salons,
ouais.
Alors, organiser les
interviews.
Mon
travail, c'est une forme de lien entre l'avant, c'est-à-dire le moment où l'auteur ou l'autrice travaille sur leur livre, le moment où l'éditeur va le faire travailler et aboutir à un livre publiable. Et puis, bon, moi, je fais partie de l'après, le moment où le livre va être mis sur table et où on va devoir essayer de faire parler de ce livre pour qu'il soit en tout cas visible dans les médias. La presse, les journaux, ça peut être la radio, ça peut être la télé. Bien sûr, aujourd'hui, on fait aussi très attention aux blogueurs, aux webzines. Donc voilà, ça passe par toute forme de médias. Et le but, dans la multiplicité et la fournée de tous les livres qui sortent, c'est d'essayer de mettre en lumière ce livre qui va paraître.
Oui, parce que je le rappelle, il y a 225 livres qui sortent tous les jours en France.
Voilà.
Donc c'est pas évident. Hein.
C'est ça, c'est pas évident. Et on ne parle même pas des rentrées littéraires où il y en a plus de 600 qui paraissent en même temps sur une semaine. Donc voilà, on peut imaginer un peu la difficulté de la tâche.
Et auparavant, tu étais salarié d'une maison d'édition ?
Absolument.
De plusieurs, es-tu devenue indépendante ? Ce sont vraiment deux métiers différents ou c'est un petit peu
la
même chose ?
Non, je pense très sincèrement que j'aurais eu beaucoup plus de mal à me lancer en tant qu'attachée de presse indépendante sans être passée par une grande maison. Moi, ça m'a énormément aidée. J'ai travaillé plus de 10 ans chez Actes Sud et puis ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai lancé mon agence en conseil et communication. Et disons que la structure de la grosse maison d'édition m'a structurée moi-même et me permet aujourd'hui avec énormément de facilité de travailler seule. La différence, c'est qu'effectivement, je ne travaille pas du tout pour les mêmes maisons. Je travaille pour des toutes petites maisons d'édition, enfin plus ou moins, mais en tout cas, elles sont indépendantes pour la plupart.
Et avant d'accepter un roman, est-ce que tu le lis ?
Absolument, toujours.
D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un problème éthique ou...
Ah oui, non, j'en fais un point d'honneur. Je ne pouvais pas le faire quand j'étais dans une grosse maison. Je pouvais lire les livres, mais la plupart du temps, on me les attribuait. Aujourd'hui, je peux me permettre de lire avant le livre et selon ce que j'en pense, selon ma capacité à le défendre, je dirais oui ou non.
D'accord. Il y a une question, je me pose une question toute bête. C'est comme tu as plusieurs maisons qui vont te confier des romans qui sortent. Il faut savoir qu'un roman, il est visible très peu de temps. Et est-ce que ça t'arrive, par exemple, d'avoir deux romans en même temps qui sont à peu près sur la même niche de lecteurs ? Est-ce que ce n'est pas très compliqué à gérer, ça ?
Alors, si, ça peut être très compliqué. Et j'essaye de faire en sorte que les romans que je défends en même temps ne soient pas justement sur les mêmes niches, ne se ressemblent pas. Parce que c'est vrai que sinon, il y a le danger que l'un prenne plus de place que l'autre. Donc j'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans ce que je choisis au moment où je le choisis.
Donc c'est un métier de contact, tu es obligé d'avoir un gros carnet d'adresses et puis d'adapter ta communication à chaque roman, à chaque livre.
Absolument, oui. J'estime que chaque livre mérite vraiment, enfin pour moi c'est, j'aime bien faire cette comparaison, mais pour moi c'est un travail de haute couture, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de travailler spécifiquement sur l'identité de chaque livre. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, je connais mes interlocuteurs, je connais leurs goûts, et j'essaie de faire en sorte de m'adapter à chaque fois en fonction de leurs goûts et d'apporter à mes interlocuteurs ce qui pourrait leur correspondre le mieux.
Mais en tant qu'indépendante, est-ce que tu as des indications de l'éditeur ou de l'auteur, ou est-ce que c'est toi qui dresse le plan de communication du début jusqu'à la fin?
Alors, la plupart du temps, je dresse le plan, mais il y a énormément de dialogues. Donc, on avance aussi ensemble, beaucoup avec l'éditeur, parfois avec l'auteur, si lui-même a des requêtes. Mais la plupart du temps, c'est vraiment un travail en commun. Moi, je vais proposer des choses. Et ensuite, on en discute avec l'éditeur, tout simplement, en fonction de ses besoins et puis en fonction de nos idées qui peuvent changer aussi selon les conversations qu'on a.
Mais c'est ce qui est intéressant là, depuis tout à l'heure. Je vois que c'est des travailleurs indépendants, tous, et qui en fait font un travail d'équipe et qui sont vraiment en relation les uns avec les autres du début presque jusqu'à la fin.
Totalement, c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe. Et je n'ai jamais autant été dans le collectif que depuis que je suis indépendante, ce qui est tout à fait étonnant. Mais on ne se sent pas comme la dernière roue du carrosse, justement. C'est extrêmement intéressant d'avoir des conversations avec des éditeurs dès le début du travail sur le texte, de se poser des questions même sur l'office, à quel moment on décide de faire paraître un livre, quelle sera la meilleure date, le meilleur moment. Enfin, on réfléchit à tout ça des mois à l'avance, et ça c'est vraiment passionnant. Et puis c'est extrêmement gratifiant d'avoir cette confiance-là aussi qu'on peut me faire. C'est extrêmement gratifiant.
Et donc arrive notre ami Covid et qui a mis en lumière
les failles.
Les failles, parce que bien sûr, c'est pour ça que j'insistais sur le phénomène de travail en équipe. C'est qu'une fois qu'arrive la crise, on s'aperçoit que les gens sont très isolés. Et que, par exemple, attaché de presse indépendante, c'est un métier libéral. Et donc, il n'y a pas les garde-fous qui entourent le travail salarié.
Non, effectivement. Donc, je n'ai pas été mise en chômage partiel pendant cette période. Et donc, je ne me suis pas arrêtée de travailler, réellement. Moi, le but, c'était d'essayer de sauver les livres qui venaient de paraître en mars, en février, mars, et ceux qui allaient paraître début avril. Donc on a essayé de rien lâcher pendant cette période, et ça n'a pas été évident du tout, hein. Il y a eu quelques semaines quand même de sidération, d'arrêt, de moments où on ne savait plus où on allait. Enfin bon, c'est quand même un choc et un traumatisme. Mais le but, c'était de continuer de faire parler des livres, hein, parce que même s'ils n'étaient plus disponibles à ce moment-là, même si les librairies étaient fermées, moi, je me faisais un point d'honneur à faire en sorte qu'il y ait encore une petite lumière, une existence. Et de fait, les journalistes continuaient à travailler pendant cette période. Donc, il y a encore des livres qui ont pu obtenir des articles, avoir de la presse. Donc, rien ne s'est arrêté. En tout cas, dans l'édition indépendante, on s'est posé des questions. Comment faire en sorte que ça continue ? Il y a un collectif d'éditeurs indépendants qui ont lancé l'événement « Les livres de mars font le printemps ». Que tu as peut-être vu, Patrick.
Oui.
Qui essayait de faire en sorte de mettre en lumière le livre qui venait juste de paraître en mars, juste au mauvais moment, pour qu'on ne les oublie pas après et qu'on continue à les faire vivre sur les tables de libraires, là, dès maintenant.
Donc, il y a des reprogrammations qui font que ces livres-là vont être
remis
en avant.
Absolument. Ouais. Le but de la plupart des éditeurs indépendants, c'est de sortir le moins possible de livres au printemps et de remettre en avant ceux qui venaient à peine de sortir ou qui allaient sortir. Voilà.
Et tu es signataire aussi de la Tribune Crisis, c'est-à-dire que je sens pour une fois un frémissement de gens indépendants qui se rendent compte qu'il faut qu'ils s'unissent.
Oui, mais si on a pu, si cette crise est arrivée et qu'on peut en arriver à ça, au moins quelque chose de positif en sortira. Oui, il est évident qu'il va falloir qu'on s'unisse, que des états généraux de l'édition indépendante arrivent, peut-être même qu'il y a un syndicat de l'édition indépendante. En tout cas, quelque chose est en route là-dessus.
Oui, parce qu'on avait vu des belles tribunes, celle d'Antoine Gallimard, etc. Mais à chaque fois, les acteurs qui reviennent, ce sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est les libraires, c'est les maisons d'édition. Mais il y a toute la chaîne, ce qu'on a vu aujourd'hui, traducteurs, traductrices, les attachés de presse, et qui, eux, sont les oubliés.
Mais ce sont les métiers de l'ombre. Ce sont ceux auxquels, souvent, on ne pense pas beaucoup, mais qui font énormément pour ce métier. Et effectivement, c'est important de ne pas les oublier. Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Rolly. Merci, parce qu'on
merci,
en sait
Patrick.
Un peu plus. Et puis ça permet de mettre le métier d'attaché de presse en avant. Et c'est un métier qui est important, qui est capital pour la vie d'un livre.
C'est un beau métier, difficile, mais vraiment qui mérite qu'on en parle un peu plus souvent.
Exactement. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ?
Alors, tu veux un livre récent
Que tu as envie de mettre en avant, puisque tu es en train de remettre en avant les livres de printemps.
Oui, avec grand plaisir. Un livre absolument formidable de Florian Aiglin, qui s'appelle Représailles à la Baconnière, et auquel je tiens beaucoup. Voilà, un auteur.
Et moi, je l'ai lu, il est très
fort.
Bien.
Voilà.
Bon, faut s'accrocher quand même. Hein.
Faut s'accrocher, c'est un peu violent, mais bon.
C'est pas pour les enfants.
Pas vraiment.
Mais ouais, sans rire, vous pouvez y aller. C'est Représailles de Florian Aiglin, c'est paru aux éditions La Baconnière. C'est très, très bien. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci, Patrick. À bientôt.
À bientôt. Sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio's son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold. Watch and a ring made from a spoon. Everyone.
gods are looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take my hand. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Voilà pour ce tour d'horizon très, très parcellaire des professions de la filière du livre qui est gravement touchée par la crise sanitaire. Mais c'était des failles qui préexistaient et qui doivent absolument être résolues si nous voulons continuer à pouvoir bénéficier d'une littérature de haut niveau. Nous en ferons d'autres parce que c'était très intéressant de voir un peu tous ces métiers dont on ne parle jamais. Merci d'être resté avec nous et puis on se retrouve très bientôt pour un des polars et des notes habituels avec les romans que vous pourrez trouver sur ce mois de mai. À bientôt, bye bye.
Des polars et des notes.